cloches et horloges, un patrimoine campanaire. Lors du concile de 817, il fut décidé que chaque église paroissiale devait être munie d'au moins 2 cloches, chaque collégiale d'au moins 3 cloches et chaque cathédrale d'au moins 6 cloches. De plus, des cloches supplémentaires devaient être prévues pour les enterrements, baptêmes, messes solennelles et autres festivités. Les clochers sont donc dès le Moyen-Âge garnis de cloches qui étaient sonnées manuellement. Non seulement l'appel à la prière résonne, mais on sait aussi à quel moment il faut rentrer des chants. Les cloches annonceront aussi les décès dans le village, le glas, ou l'alerte en cas de danger, le tocsin. L'association Horloges d'Altitude réveille des horloges publiques centenaires endormies depuis longtemps. Un beau projet d'amitié qui allie patrimoine, technique, musique, rêve et voyage, et qui unit élèves, professeurs, agents, partenaires et amis. Membre de l'association Horloges d'Altitude, Jean-Pierre Lamiral nous présente la fabrication des cloches de façon artisanale. Jean-Pierre Lamiral, vous êtes membre de l'association Horloges d'Altitude.
C'est exact. Depuis maintenant 5 ans, je collabore avec l'équipe de cette association qui s'occupe de la restauration à la fois des horloges sur le territoire du Grand Briançonnais et même un peu plus loin puisque ça va de Marseille jusqu'à Venise en ce qui concerne les horloges. Et bien sûr, les horloges sont associées dans 99,9% des cas à des cloches, donc un patrimoine campanaire, comme on dit, c'est-à-dire dans les beffrois, dans les campaniles et dans les clochers d'église et de chapelle, les deux sont associés. Donc aujourd'hui, à l'exposition de Villars-Saint-Pancras, nous présentons une synthèse de ce qui se fait dans le monde de la fabrication des cloches d'une façon artisanale.
Vous avez même mis en exposition une cloche qui a été fabriquée ici même sur place il y a quelques années.
C'est exact, dans l'un des fours qui s'appelle le four à réverbère. C'est un four qui permet d'obtenir une température supérieure au four à chaud et aux autres fours traditionnels dans la maçonnerie, dans le BTP. Et le four à réverbère nous a permis de monter au-dessus de 1000 degrés, mais malheureusement, pas tout à fait la température de 1200, 1250 degrés requise pour fondre une cloche de bonne qualité. Donc notre premier essai a été moyen, le matériau est hétérogène, on a rajouté un peu d'étain par rapport à la quantité de cuivre pour baisser le point de fusion parce que notre four ne montait pas en température. Et on n'a pas voulu tricher sur la température du four parce qu'on a pris des méthodes traditionnelles. La cloche, une fois démoulée, bon, on a été un petit peu déçus, elle n'est pas jolie, elle n'est pas homogène et au point de vue sonorité, c'est pas ça, il y a un problème de réglage. Et ça, c'est les professionnels. Aujourd'hui, il y a une grande société à Annecy qui s'appelle Pacard et qui fait de la restauration de cloches d'églises et de différentes religions. Et Pacard, eux, ont des techniciens et des scientifiques et du matériel de réglage des sonorités des cloches pour la fabrication professionnelle. Voilà.
Et oui, parce qu'on rappelle qu'une cloche peut sortir une note de musique différente. Ça peut être un sol, un...
Oui, il y a trois grands paramètres sur une cloche. Il y a d'abord la note de musique, parce que c'est musical. Donc une cloche, c'est un gros diapason, comme pour accorder les pianos. Mais le diapason, lui, est un tout petit émetteur de son. Et la cloche, elle est destinée à être entendue dans un rayon de 1 km à 50 km. Donc il y a d'abord le volume. Le volume, il est lié au poids, c'est-à-dire à l'énergie qu'on donne à la cloche pour ensuite transmettre le son dans l'air. Donc il y a le volume, c'est le premier paramètre, et le poids, c'est la taille de la cloche. Plus elle est grosse, plus elle fera du bruit. Ensuite, il y a donc la fréquence, la sonorité. Elle est plus grave ou plus aiguë. Et puis ensuite, il y a la durée d'amortissement du son. Ça fait dong, ou ça fait dong, ça s'arrête. Donc là, c'est des cloches qui sont pour les beffrois, qui ont un long temps et qui relancent la cloche lorsque le son est atténué pour éviter d'être un bafouillage. Par contre, pour les carillons, dans le nord de la France et dans l'Europe du Nord, il y a beaucoup de carillons. Là, il faut que les cloches aient un tintement court. Parce que si vous jouez au clair de la lune, les notes s'enchaînent à la queue leu leu. Et si vous faites au clair de... La troisième note va brouiller les deux premières qui n'ont pas fini. Et on entend, c'est du charabia. Il y a trois paramètres, et ça se règle avec la géométrie. Donc la forme en bois là-bas, qui fait le moule, la poterie. Et ensuite, c'est rempli avec le métal en fusion. Et quand ça sort, normalement, si on a bien calculé son coût, on a la bonne note, la bonne durée, etc. Et ce que l'on ne sait pas, nous, parce qu'on a perdu les savoirs de la famille Vallier qui faisait ça à Plampinet et de la famille Gauthier qui fabriquait ça à Fourville, le hameau de Briançon, on a des traces historiques, mais on n'a pas les traces industrielles, il n'y a pas le mode d'emploi. Ça se transmettait de génération par génération. Et donc, nous, il faut qu'on réinvente la roue. Et comment on l'a fait ? Voilà. Donc, c'est un travail technique et de recherche dans les archives pour pouvoir comprendre comment on est arrivé là. Donc, maintenant, on maîtrise, puisque on a eu beaucoup de littérature, on a eu beaucoup d'échanges avec Paccard à Annecy. Et puis là, on a récupéré une cloche qui a été fondue par une école d'ingénieurs des arts et métiers, et qui ont mis, eux, d'une façon technique, un peu comme les fabricants aujourd'hui, des équations de mathématiques, des appareils de mesure électroniques, pour pouvoir régler la cloche correctement. Alors peut-être qu'un jour, on arrivera à Briançon, à ce niveau-là, pour avoir une petite sœur à cette cloche, qui a maintenant 7 ou 8 ans. Je voudrais résumer l'intervention en disant que les horloges et les cloches, c'est un mariage d'amour et de raison. D'amour parce que c'est de la musique, les cloches, c'est des sonorités et on peut faire donc des carillons, mais ça annonce des bonnes nouvelles quand elles sont à la volée ou des mauvaises nouvelles quand c'est le glas. La raison, c'est construire une horloge, c'est compliqué parce que mécaniquement, il y a eu beaucoup de recherches à partir de la Renaissance par des physiciens, par des mathématiciens en Hollande, à Florence, et puis en France, en Suisse, en Angleterre, pour mettre au point justement ces horloges. C'est pas du tout sentimental comme la musique et la qualité des sons, mais c'est vraiment une réussite à la fois technique et industrielle, parce qu'après, pendant 2-3 siècles, on a fabriqué des horloges mécaniques. Alors évidemment, à partir de Thomas Edison, on a inventé l'électricité et ses applications à l'électricité, on a électrisé les horloges, mais pas les cloches. Les cloches, c'est venu au fil du temps. Au lieu de tirer les cloches avec des cordes, on a mis des moteurs électriques pour faire tourner la cloche. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que ça a fait intervenir beaucoup de techniques, de technologies, ces moteurs de temps que sont les horloges et ces haut-parleurs de son que sont les cloches. Ce sont des très très beaux outils pour les élèves du lycée. Et en classe terminale de technologie et en BTS, ça remet ensemble beaucoup de concepts, à la fois sur les matériaux, sur les mathématiques, sur les sons, et sur les problèmes d'histoire et de géographie, puisque les horloges, ici à Briançon, il y en a en Savoie, il y en a dans le bas du Val de Durance et dans le Val de Suse, en Italie, dans le Piémont. Donc on a déjà exporté avant l'Europe. Alors donc c'est intéressant de remontrer à des élèves qu'une industrie, aussi petite soit-elle, aussi artisanale soit-elle, est intéressante pour faire vivre un territoire. Ces sociétés, comme la société de Plampinet, elle a tenu toute la dynastie des Valliers a duré 250 ans. Donc il y a eu 5 générations de 50 ans environ chacune. Et il y a eu environ pas loin de 4 générations du côté de Gauthier à Fourville. Donc presque 200 ans, 180 ans. Donc ce sont des développements durables, on dirait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petites et moyennes entreprises de cette taille-là qui ne vivent que quelques mois, voire un an. C'est un bel exemple aussi de recherche économique. Parce que tout ça, ça a un prix. Nous, on est des bénévoles. Le lycée, il travaille avec des budgets qui nous permettent de créer des moules, de faire usiner, réparer des cloches ou acheter des cloches comme ça. C'est le prix de la formation, de l'apprentissage, de la pédagogie et donc de la culture. Donc c'est la culture patrimoniale, mais néanmoins, il y a des bases réelles et non pas théoriques.